Hola les guys, bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de Rien à voir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du syndrome du sauveur. Si jamais vous avez écouté d'autres épisodes de mon podcast, vous savez peut-être que quand j'étais petite, j'avais comme unique projet de vie de sauver le monde. J'ai découvert vers mes 5 ans que le monde était en train d'être détruit par l'homme et je me suis dit, mais ça va pas du tout cette histoire. Et de mes 5 à mes 25 ans, j'ai tout fait pour essayer de trouver un travail qui puisse me permettre de sauver le monde pour enfin me sentir utile. Et j'avais vraiment cette impression que je ne pourrais être heureuse et être bien dans ma vie qu'une fois que j'aurais sauvé le monde. Malheureusement, c'est un petit peu voué à l'échec, of course. Du coup, bon, ça, c'est un projet qui a été avorté. Mais forcément, quand on grandit avec cette idée-là, c'est quelque chose qui se traduit aussi dans ma relation aux autres. Donc à la fois, il fallait que je sauve le monde entier du réchauffement climatique et de la catastrophe climatique, etc., etc. Mais ça se traduisait aussi dans mes relations par le fait que lorsque je croisais quelqu'un qui était pas forcément bien, je voulais à tout prix que cette personne soit bien. Parce que je me disais, sinon, notre relation ne sert à rien. Et du coup, cette personne n'a aucune raison de vouloir être avec moi et de vouloir m'aimer si je sers à rien. Bon, je crois que j'ai dit déjà beaucoup de choses en très peu de temps. Je pensais pas partir aussi vite dans tous les sens, mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter des cas un peu plus concrets. Comme ça, peut-être que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Le premier cas concret qui me vient en tête, c'est quand j'avais 22-23 ans. Et j'étais partie seule en Espagne pour travailler, donc je connaissais pas forcément grand monde. Et il se trouve que j'étais devenue assez rapidement très amie avec une collègue de travail qui avait 3-4 ans de plus que moi et qui était une personne très sensible. Alors, je vais encore parler d'astrologie, je suis cancer, elle était cancer et je pense que du coup, forcément, ça matchait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que qui dit Espagne, qui dit milieu de l'hôtellerie, bon, je sais pas si je l'ai dit, mais du coup, je travaillais dans un hôtel, dit cocaïne. Surtout que j'étais à Palma de Mallorca, donc vraiment juste à côté d'Ibiza, et vraiment là-bas, la cocaïne, il y en a absolument partout. Et donc moi, je me retrouve à sortir énormément en boîte avec des collègues de travail. On me propose tout le temps de la cocaïne. Moi, c'est un non catégorique parce que je connais mes limites et je connais ma tendance, en tout cas à cette époque-là, à devenir sûrement addict rapidement. Du coup, non, non, non. Mais mon amie, elle dit oui et concrètement, en l'espace d'à peine 2-3 mois, elle tombe totalement dans la cocaïne. Elle se met à sortir avec le dealer du coin alors qu'elle est en couple. Elle se met, enfin bon bref, à se mettre dans des situations vraiment dangereuses. Et puis, ben moi, je commence à me retrouver dans une position qui est compliquée parce que j'ai quelqu'un que j'apprécie qui est en train de sombrer dans l'addiction devant moi. J'essaye de lui parler, sauf qu'en fait, quand on parle à quelqu'un, surtout je pense au début d'une addiction, cette personne, elle est totalement dans le déni. Donc pour elle, c'était totalement normal. Et quand j'ai commencé à lui dire, bah peut-être pas forcément, elle a commencé à me dire que c'était moi qui avais un problème, que c'était moi qui n'étais plus, voilà, assez cool, entre guillemets. Et je me souviens d'un jour où, en fait, donc après des mois et des mois où c'était hyper compliqué, parce qu'en plus, il y avait son copain qui essayait de lui faire aussi entendre raison. Et du coup, elle se mettait à être un peu contre son copain, elle voulait plus l'écouter, mais elle écoutait que moi. Et là, elle commençait à plus m'écouter non plus. Bref, je lui dis, bon, bah, si jamais t'as vraiment pas de problème avec la cocaïne et que c'est vraiment que récréatif, c'est pas compliqué. Ce soir, on sort, t'en prends pas. Et c'est tout. Et il se trouve qu'elle en a pris et que j'ai compris que là, il allait falloir que je me protège d'une certaine manière. Je me rappelle aussi que son copain, donc pas le dealer, l'autre, qui avait 10 ans de plus que moi, il devait avoir 35 ans, quelque chose comme ça. Et je me souviens d'un jour où il vient me voir à l'hôtel. Et il s'effondre dans mes bras en pleurs en me disant « sauve-la ». Et en fait, ça faisait beaucoup, sachant que à côté de ça, moi, j'avais mes propres problèmes, j'avais mes propres troubles, on va dire. Et en fait, finalement, c'était un mal pour un bien, parce que j'étais tellement désemparée, je savais tellement pas quoi faire, que j'en ai parlé à une personne qui est devenue ma meilleure amie après ça. Et cette personne m'a dit « mais en fait, Olga, t'as pas à la sauver ». Ce n'est pas ta responsabilité, c'est sa responsabilité, c'est sa vie, c'est elle, c'est pas toi. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait vraiment, vraiment du bien de l'entendre. Et je me souviens que c'est la première fois où vraiment, je me suis dit, là, je me fais passer moi, mon bien-être, ma santé, ma vie, tout simplement, avant celle de quelqu'un d'autre. Donc ça, ça a vraiment été, on va dire, le premier déclic. Et je pense que le deuxième, il a eu lieu un an et quelques plus tard, quand j'ai compris que personne ne pourrait me sauver. Je m'explique, je recontextualise, et je suis désolée d'avance si j'ai déjà raconté ça dans d'autres épisodes. Mais grosso modo, donc, moi, j'avais ma dépression, et je suis arrivée à un stade où j'étais tellement mal que j'ai littéralement demandé à mon père de me sauver, entre guillemets. Et en fait, mon père ne m'a absolument pas sauvée. Et à ce moment-là, j'avais conscience qu'il m'aimait très fort, parce que pour moi, c'était la personne qui m'aimait le plus sur la planète. Et le fait que la personne qui m'aimait le plus sur cette planète ne pouvait pas me sauver, ça m'a fait comprendre que la seule personne qui peut réellement nous sauver, c'est nous-mêmes. Et ça, forcément, dans l'histoire du syndrome du sauveur, ça permet de prendre un peu de distance parce que concrètement, aujourd'hui, je n'essaye plus jamais de sauver qui que ce soit. J'ai en moi une grande empathie, mais j'ai cette certitude que si quelqu'un va mal, la seule manière pour lui d'aller mieux, c'est qu'il décide, lui, de se sauver pour soi-même. Qu'est-ce que j'entends, se sauver pour soi-même ? Bah, c'est tout simplement de se sauver par amour pour soi. C'est-à-dire, je reste en vie et je veux vivre parce que je m'aime. Pas je reste en vie et je veux vivre pour les autres. Parce que je ne peux pas rendre mes parents tristes, parce que je dois protéger mes frères et sœurs, parce que j'ai des amis que je dois rendre heureux. Non, ça, c'est pas des raisons de se sauver. Ça, c'est des raisons qui sont liées aux autres. Vraiment, se sauver, c'est se dire « Ok, ma vie, elle vaut quelque chose, je vaux quelque chose, et c'est tout. » Sans ce truc de « je dois me sauver pour être utile ». Après, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, d'apprendre à réellement s'aimer. D'ailleurs, moi, j'ai commencé à le faire il y a du coup 3 ans et demi, et je galère encore aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que je travaille beaucoup, beaucoup dessus sur le fait de m'aimer. Et que clairement, on est quand même beaucoup mieux qu'avant. Après, j'ai pas forcément envie de plus parler de tout ça dans cet épisode parce que j'ai envie de faire un épisode dédié à la dépression et je pense que je pourrais beaucoup mieux expliquer ma guérison, comment j'en suis sortie dans un autre épisode. Là, on va vraiment se concentrer sur comment est-ce qu'on fait quand on a toujours ce besoin de sauver les autres. Du coup, vous allez me dire, mais là, en fait, Olga, c'est bon. T'as eu ton déclic, tu sais que tu peux pas sauver les autres, tout va bien dans le meilleur des mondes, fin de l'épisode. Non, sinon ce serait beaucoup trop facile. Oui, j'ai pris conscience que je ne pouvais pas sauver les autres, mais j'ai continué à être irrémédiablement attirée par des personnes qui n'allaient pas bien avec cette idée en tête que... Alors, du coup, j'avais compris que je ne pouvais pas les sauver, donc je me disais plutôt, je vais leur donner tellement d'amour qu'ensuite, ils vont comprendre qu'ils sont des belles personnes, qu'ils vont commencer à s'aimer eux-mêmes et à vouloir se sauver. Mais au final, j'ai fait que déplacer le problème parce que j'avais toujours ce truc de me dire « il faut que je fasse en sorte que cette personne veuille se sauver ». Bon, ce qui se passe, c'est que quand on est comme ça, ça fait énormément de mal. Je me suis fait énormément de mal parce que je suis allée me frotter à des personnes qui ne voulaient pas être sauvées, qui ne voulaient pas aller mieux. Et moi, j'étais là « allez, c'est pas grave ». Et forcément, quand on est face à une personne et qu'on lui apporte de l'amour et que cette personne se déteste, elle va pas accepter notre amour. Et on va s'en prendre plein la gueule. Et j'ai été un punching ball, je pense notamment à une relation où je suis tombée très très amoureuse. Et en fait, en face de moi, j'avais une personne qui à la fois voulait de ça, mais à la fois n'en voulait pas. Et du coup, moi, ça m'a fait énormément de mal. Et là, vous allez me dire, bon Olga, bah, c'est bien, c'est une deuxième leçon, tu apprends tes erreurs, tu arrêtes de vouloir, encore une fois, sauver des gens qui ne veulent pas être sauvés, tu arrêtes d'aller vers des personnes qui vont pas bien et qui ne veulent pas aller mieux, tu arrêtes. Mais non. C'est-à-dire que oui, j'ai fait énormément de choses pour arrêter, je me suis un peu même presque isolée de certaines personnes dès que je voyais que quelqu'un était un petit peu trop... Bon, déjà, les addictions, on n'en parle pas. C'est-à-dire que vraiment, j'avais ce truc de « t'as une addiction, c'est ciao !» Je veux pas de ça dans ma vie. Et puis, j'avais aussi ce truc de « dès que je voyais que quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, était dans de l'autodestruction et ne voulait pas aller mieux, je me disais « aïe, 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 ouïe, ouïe, il faut pas que je m'embarque là-dedans. » Bon, bah, spoiler alerte, en fait, des fois, tu le vois pas. Et des fois, t'es attiré par des gens et tu le vois même pas. Enfin, tu le vois, je pense que l'inconscient le sait. Mais que toi, t'es là. Mais non, mais alors cette personne, elle va très bien. Franchement, tout va bien. Non. Bah non, sinon c'est pas drôle. Et en fait, j'en ai parlé à ma psy et elle m'a dit, à très juste titre, si vous ne changez pas ce qu'il faut changer en vous, si vous ne réglez pas ce qu'il y a à régler en vous, l'univers vous apportera toujours le même genre de personne pour que vous finissiez par comprendre. Donc, j'ai dû me poser et j'ai dû me dire, ok, bah, pourquoi je veux sauver les autres? Parce que depuis le début, là, je vous parle un petit peu de comment faire pour ne plus avoir, entre guillemets, ce syndrome du sauveur, mais peut-être que la meilleure manière de ne plus avoir ce besoin irrépressible de sauver les gens qui nous entourent, c'est juste de se poser la question de pourquoi? Pourquoi je dois sauver les gens qui m'entourent? Du coup, on a réfléchi et on en est venu à la conclusion assez évidente au final, qui est que je ne me pensais pas aimable pour qui j'étais. C'est-à-dire que j'ai grandi avec ce truc de me dire « il faut que je fasse quelque chose pour les autres, pour qu'ils m'aiment ». Moi, en tant que juste Olga qui ne fait rien, je ne suis pas une personne aimable. Et je me disais que personne ne pouvait choisir de rester dans une relation avec moi juste pour moi, juste parce qu'il m'appréciait, puisque ça, c'est pas quelque chose qui était inscrit en moi. J'avais vraiment ce truc de « si on m'apprécie, c'est pas pour qui je suis, c'est pour ce que je fais et c'est pour ce que je donne ». Le truc, c'est que quand on pense comme ça, quand on est persuadé qu'il faut toujours qu'on soit dans l'action et qu'on soit toujours en train d'agir de manière positive pour les autres, pour qu'ils nous aiment, ça fait que, bon bah déjà, bien sûr, j'étais en anxiété permanente. Et ça faisait aussi qu'en fait, ok, j'avais plus forcément cette voix qui me disait « sauve les autres », mais j'avais cette voix qui me disait « si quelqu'un se sent mal autour de toi, il faut, d'une manière ou d'une autre, que tu fasses en sorte qu'elle se sente mieux ». Je pouvais pas, jusqu'à très récemment, rester à côté de quelqu'un qui va mal et ne rien faire du tout, et surtout me dire que je ne devais rien faire. Bon, je commence à encore partir dans des délires un petit peu compliqués, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre des exemples hyper concrets. Je suis une personne qui ressent littéralement l'anxiété des autres. Ça veut dire que j'ai notamment une amie au travail qui est assez anxieuse, et la dernière fois, on était dehors, on mangeait. J'étais à côté d'elle, tout le monde parlait, et j'ai commencé à avoir très mal au ventre, ce qui est chez moi le signe de l'anxiété. Sauf que je savais que cette anxiété, elle venait pas de moi, j'avais pas forcément de raison d'être anxieuse à ce moment-là. Et je me suis dit, si elle vient pas de moi, c'est qu'elle vient de mon amie qui était à côté de moi. Et ce qui se passe, c'est que l'après-midi, on parlait et elle m'a dit, ce midi, je me sentais pas bien du tout, j'étais hyper anxieuse. Et je lui ai dit, je sais parce que vraiment, quand je dis que je suis empathique, c'est que je ressens littéralement l'anxiété des autres. Je ressens pas forcément la joie, la colère, etc. Mais l'anxiété, c'est quelque chose que j'ai tellement moi-même expérimenté que je le ressens chez les autres. Et le problème, c'est que c'est très compliqué de vivre quand tu ressens l'anxiété des autres, parce que des gens anxieux, il y en a absolument partout, et que je peux pas juste passer ma vie seule chez moi. Parce qu'en plus, si je passe ma vie seule chez moi, après, je suis anxieuse aussi. C'est un peu le chat qui se mord la queue. L'autre problème, c'est que là, je parle d'une personne que j'apprécie vraiment et que je n'ai pas envie de m'éloigner de cette personne juste parce qu'elle est anxieuse. Enfin, je veux dire, en soi, c'est pas de sa faute si elle est anxieuse. Donc, je me suis vraiment posée et je me suis dit, Olga, là, va falloir que tu trouves une solution. Il va falloir que tu trouves une manière différente pour faire en sorte d'être capable d'être avec une personne qui va pas bien et de ne pas ressentir son anxiété. Donc, encore une fois, je me suis posé la question de pourquoi. Pourquoi est-ce que je ressentais aussi fort l'anxiété des autres? Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, quand j'avais quelqu'un anxieux à côté de moi, j'avais pas juste quelqu'un anxieux à côté de moi. J'avais quelqu'un anxieux à côté de moi et automatiquement, il y avait une espèce de signal d'alarme qui se mettait en place dans ma tête qui me disait « tu dois faire en sorte que cette personne ne soit plus anxieuse ». Le problème, c'est que concrètement, à part, je sais pas si c'est vraiment des amis proches, je peux toujours leur faire des câlins, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour qu'une personne ne soit plus anxieuse? Bah, pas grand-chose. Bon, la conclusion, elle est pas forcément hyper positive du coup, parce que si on résume tout cet épisode, je vous ai dit, un, on peut pas sauver les autres, et deux, on peut même pas faire en sorte qu'ils se sentent moins anxieux. Ok, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Si jamais vous êtes avec des personnes qui vont pas bien du tout dans votre entourage, vous avez peut-être envie de leur donner des conseils, vous avez peut-être envie de les aider en leur disant « t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça ». Moi, je pense que toutes ces choses, oui, ça peut peut-être servir, mais au fond, souvent, quand on donne des conseils, on est juste en train de parler de nous. C'est-à-dire que si quelqu'un, demain, il vient me voir et qui me dit « bah là, je me sens pas bien » et que moi, je lui dis « t'as qu'à faire du sport, t'as qu'à sortir, t'as qu'à voir des gens », peut-être que ça, c'est des choses qui ont marché pour moi, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher pour la personne. Ça ne veut pas dire que c'est réellement ça dont la personne a besoin. Et le plus souvent, je crois qu'au fond, quand on ne va pas bien, on ne se tourne pas forcément vers les gens pour qu'ils nous disent quoi faire. On se tourne juste vers les gens parce qu'on a besoin de sentir qu'on n'est pas seul. On a besoin de sentir qu'on est écouté. On a besoin de sentir qu'on ne va pas être jugé. Et je crois que bah là, j'ai résumé concrètement ce qu'on peut faire quand quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, ne va pas bien, quand on a l'impression et quand on le voit que cette personne est en train de foncer dans le mur, mais qu'on ne peut pas lui dire c'est tout. Il y a des fois où moi, je vois des gens qui se font du mal, je vois des gens qui font pas pour moi les choses qu'ils devraient faire, entre gros guillemets, mais qu'est-ce que je peux faire ? Je me rappelle d'une fois, j'avais une amie qui était au chômage et ça a duré très longtemps. Et en fait, plus ça allait et plus elle avait peur d'envoyer des CV. Et moi, je lui disais, agis, envoie un CV, commence à faire un travail. Si c'est pas ce travail, c'est pas grave. Au moins, tu seras sorti de ton isolement, tu seras sorti de ton inaction et tu avanceras. Je lui ai dit ça pendant des mois et des mois et des mois. Et en vrai, avec du recul, je pense que j'aurais dû me taire. Et je pense que j'aurais dû faire ce que j'ai aussi fait, hein, on va pas se mentir, mais juste l'écouter. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on retrouve quand on va voir un psy. La différence entre un psy et des amis, c'est que des amis, avec toutes les bonnes intentions du monde, ils vont avoir tendance à vous écouter et à vouloir répondre. Ah, ok, ça c'est ton problème, ok, bah je te donne une solution. Et souvent, je sais pas, en tout cas moi je sais que des fois je dis des choses, la personne en face elle me répond autre chose et je suis en mode, mais t'as pas écouté ce que j'ai dit en fait. Et j'ai même pas besoin en fait que la personne en face elle me donne des conseils ou qu'elle me donne des réponses. Et je crois qu'au fond on a pas forcément besoin de ça parce que toutes les réponses à toutes nos questions, elles sont à l'intérieur de nous-mêmes. On n'a pas besoin qu'il y ait quelqu'un en face de nous qui nous apporte une réponse toute faite. La réponse elle est à l'intérieur de nous-mêmes. Et un psy, tout ce qu'il fait c'est nous écouter et nous poser des questions pour qu'on s'écoute encore plus, mais sans essayer d'apporter une réponse qui est toute prête. Non, pas du tout. Un psy, c'est là, ça écoute, et surtout, ça ne juge pas. Et bah, je crois qu'on n'a pas besoin d'être psy pour faire ça. Hein. Et c'est quelque chose que j'apprends encore, tous les jours, d'écouter réellement ce que dit la personne en face. Et chez moi, c'est un peu compliqué parce que j'ai souvent cette impression que les gens se mentent à eux-mêmes. Donc, quand ils me parlent, j'ai l'impression que du coup, ils me mentent à moi aussi. Et j'ai un peu ce truc de j'ai du mal à écouter ça. En fait, j'ai du mal à écouter des discours où je me dis, mais c'est pas possible, tu te mens à toi-même. Mais tant pis, peut-être que cette personne se ment à soi-même. Tant pis, c'est pas grave. Au fond, si je suis là et si elle est en train de me parler, c'est qu'elle a envie de me parler et qu'elle pense que je vais pas la juger. Donc, c'est tout ce que j'ai à faire. Et si je suis à côté de quelqu'un qui est anxieux et qui veut pas parler, bah je peux juste être là et juste être une personne sur qui il ou elle pourra compter et il le sait. Et c'est tout. Et on n'a rien d'autre à faire que ça. Bon, eh ben écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question. J'espère que c'était pas trop flou comme d'habitude. J'espère que ça a pu parler à certains d'entre vous tout ce que j'ai pu raconter dans cet épisode. En attendant, n'hésitez pas à me faire vos retours, ça me fait toujours très plaisir et ça me motive à continuer. Et puis, bah voilà, c'est à peu près tout. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous avant tout et on se retrouve la fois prochaine. Ciao !